Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin encore une fois, tu as parlé par les uns, par les autres, par les témoignages, le partage. Et tu nous invites à fixer le regard sur toi. Humainement, je reconnais que c'est difficile quand on vit dans l'épreuve, quand on vit dans l'adversité, quand on vit dans la souffrance, que ce soit une souffrance morale ou une souffrance physique, une souffrance sociale, une souffrance psychologique. Quand on est dans l'épreuve, Seigneur, tu nous as montré que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, tu te présentes à nous comme surnaturel pour nous présenter ta force et ta grâce. Je remets entre tes mains tous les sujets partagés ce matin, car tu es le seul en qui nous pouvons nous reposer. Je te prie de sanctifier ta parole, bénir ta parole, et ce que nous allons partager à présent n'est qu'un grain de sable, mais que ce grain de sable puisse habiter dans notre cœur, que tu puisses balayer tout ce qui vient de l'homme, mais que nous puissions garder que ce qui vient de toi, dans l'humilité, la simplicité, car nous sommes tous égaux devant toi. Il n'y a pas un au-dessus de l'autre, il y a bien toi qui es la tête de l'Église, le corps de l'Église, le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. En ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre étude dans l'Évangile selon Marc et nous arrivons au chapitre 2 et aujourd'hui nous allons nous intéresser au verset 13 à 17. Marc 2, verset 13 à 17. Nous avançons petit à petit dans ce livre, courte certes, mais qu'est-ce qu'il est parlant par sa simplicité. Nous avons appris jusqu'à maintenant à ne pas seulement faire un voyage historique, bien que c'est intéressant pour l'égoïsme humain, pour la richesse humaine, mais le plus important, c'est le message spirituel qui s'adresse à chacun de nous à l'Église. Nous sommes plus que ce que nous pensons être. Nous sommes plus que ce que les autres pensent de nous. Nous sommes ce que Dieu pense de nous, c'est-à-dire quand il nous regarde, il nous entraîne déjà dans cette éternité. Je lis ces passages. Chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit, « Suis-moi, Lévi, suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec des publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voilà notre passage. Je me suis plongé, je dirais, dessus hier. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, même si ce matin, je l'ai revu encore une fois. Je précise que Lévi, il s'agit de Lévi, si Marc et Luc l'appellent Lévi, en fait son nom c'est Matthieu. C'est auprès de l'évangile de Matthieu, lui, Lévi c'est Matthieu. Donc oui, c'est le même personnage. C'est l'appel d'un des parmi les 12 disciples. Beaucoup de choses à dire. Jésus sortit de côté de la mer. Vous voyez, et la mer, encore une fois, ça peut être l'image pour chacun de nous. Ça peut être les épreuves, la souffrance, les questionnements. On n'a pas de réponse. Et bien, dans ce monde, il y a des questionnements ou des épreuves, que sais-je, le Seigneur se tient. Vous voyez, déjà, dès la première phrase, on a déjà cette réponse que le Seigneur nous dit. Dans votre monde, dans votre tumulte, dans vos questionnements, je suis là. Et dans ce monde de tumulte, la foule vient vers le Seigneur. Parmi la foule, il y avait des gens honnêtes. Il y avait aussi des hypocrites. Il y avait de tout. Il y a des gens sincères. Il y a des gens qui cherchaient le Seigneur. Il y en a qui voulaient juste les miracles. Il y en a qui voulaient le Seigneur lui-même. Il y avait aussi des disciples. Et qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur avec eux? Il nous dit, il les enseignait. Eh bien, mes frères et sœurs, la première chose qu'il faut savoir, si quelque chose ne va pas, s'il y a des difficultés, s'il y a quoi que ce soit, si on est cette mer agitée, sachant que le Seigneur est là et il veut nous enseigner, à nous d'aller vers lui, comme cette foule et ses disciples qui couraient vers lui. Et dans ce monde, il a ses enfants, il a ses brebis, il les connaît, comme Lévi. La foule et les disciples accourent vers le Seigneur pour être enseignés. Ma question, nous, pourquoi nous allons vers le Seigneur? Est-ce que nous voulons juste qu'il fasse des miracles devant nous? Ou est-ce qu'on veut qu'il nous enseigne? Et qu'il y ait des enseignements d'une nourriture spirituelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est éternel. Ce qu'il nous enseigne restera même quand on ira le rejoindre. Quant au miracle, ça fait du bien. Et nous en voulons, moi le premier, qu'il touche mon corps, parce que moi aussi j'ai mal au dos, tout ce que vous voulez, vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez. Mais le plus grand des miracles, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ce corps sera peut-être guéri, mais il passera. De toute manière, il passera. Il peut être guéri 1000 fois, hein, il passera. C'est pour ça les gens, quand j'entends ces messages dans les églises, « Ah, Dieu ne veut que guérir. » Il faut bien mourir un jour, non? Mais voyons, juste raisonnement terre à terre. Dieu, dans sa grâce, peut toucher le corps aussi, et nous le croyons. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est la vie éternelle. C'est le miracle qu'il fait dans le cœur. Celui-là, il va rester avec lui. Et s'il faut que ce corps subissent l'épreuve de la souffrance, et bien que ce soit ainsi. Si à la place, nous avons la vie éternelle. Rappelons ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Mais moi qui, à travers moi, tu guéris pas mal de monde. Il y en a des gens qui cherchent même à me toucher sans guérir. Il y a même des morts ressuscités. Mais moi que je viens vers toi, Seigneur, tu ne veux pas. Ma grâce te suffit. Parce que dans l'épreuve, il utilisait l'apôtre Paul. Mais il a mérité, il est auprès du Seigneur pour l'éternité. Bien évidemment, parmi ces gens, cette foule, il y a ceux qui le cherchaient plus par ce qu'il fait que par ce qu'il est. Mes frères et sœurs, cherchons le Seigneur parce qu'il est, pas parce qu'il fait. Si on le cherche parce qu'il est, dans sa grâce, on verra aussi s'accomplir des choses qu'il fait. La foule cherche les miracles, mais les disciples cherchaient le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est important. En tout cas, le Seigneur se rend toujours disponible pour enseigner ceux qui le cherchent. Si nous cherchons le Seigneur, il nous enseigne. Mais aussi, le Seigneur appelle ceux qui ont le cœur disposé à le recevoir. C'est le cas de Lévi, Matthieu. Il est écrit que le Seigneur le vit et lui demanda de le suivre. Il y a le voir d'abord, il l'a vu, et après, il lui a demandé. Et le voir dans notre passage est plus profond que le voir des yeux. On a l'impression qu'il l'a vu. Non, il l'a vu, il l'a sondé, il a connu son cœur. Il a fait alors, le regard du Seigneur comme il l'a fait avec Pierre, rappelons-nous. Quand il a dit, quand tu me renieras, le coq ne chantera pas, et tu me renieras. Et quand le coq a chanté, un passage que j'aime, c'est comme une scène de film. Il est dit, Pierre s'est rendu compte qu'il a renié le Seigneur, il est dit, le Seigneur l'a regardé. Imaginez ce regard du Seigneur pendant qu'il souffrait, et il voit Pierre le renier. Ça doit être terrible. Je ne veux pas être à la place de Pierre. Un simple regard, c'était un regard de tendresse. Mais en même temps, lui dit, je te l'ai dit, Pierre, mais ce n'est pas grave. Je viendrai vers toi, je te montrerai le vrai amour. Je te pardonne. Là, il a regardé Pierre. Il a dit, il vit Pierre. Il a compris l'état de son cœur. Il savait que ce Lévi-là se posait des questions. Il était déjà dans une repentance. Et là, il lui a dit, Lévi, viens avec moi. Cette scène doit s'adresser à chacun de nous et moi le premier. On veut toujours que le Seigneur intervienne dans ma vie. Viens, Seigneur. Mais il me regarde et regarde mon cœur. Où est ma priorité? Chacun de nous, si on se pose cette question, j'en suis sûr, on ne peut être qu'honnête devant Dieu. Connaissant la disposition du cœur de Lévi, le Seigneur l'appela et lui demanda de le suivre. La réponse de Lévi est immédiate, car il attendait cet appel. Il quitta tout pour le suivre. Il a tout laissé et il l'a suivi. On ne peut pas suivre le Seigneur si nous n'avons pas cette disposition du cœur. Si nous sommes venus vers le Seigneur intellectuellement, par un raisonnement, j'ai posé le pour et le contre, ce sera une conversion intellectuelle. Tôt ou tard, elle disparaîtra. Et si aujourd'hui on se pose des questions, combien d'enfants de Dieu ont quitté, ont abandonné le Seigneur? Nous ne cherchons pas très loin. La question se pose, est-ce une conversion de cœur ou de tête? Des fois, on devient chrétien par proximité pour des gens qu'on aime. On est marié avec un chrétien parce qu'on aime la personne avec qui on est marié, on devient chrétien. Parce qu'on veut être accepté, on devient chrétien. Par intérêt, on devient chrétien. Parce qu'on n'est pas tout seul, on devient chrétien. Mais cette conversion disparaît avec le temps. Il n'y a rien d'autre que la conversion du cœur basée sur la repentance. Et c'est quand c'est basé sur la repentance, à un certain moment, le Seigneur nous appelle. On dit, nous sommes là. Et quand cette repentance part du cœur, on va vers le Seigneur, on peut accepter d'être dans l'arène, manger par des lions et chanter des cantiques. Vous voyez la différence? Lévi, dans son cœur, il y avait des remords. Lévi était dans une repentance et il a répondu à l'appel du Seigneur. Je me suis toujours posé la question, mes frères et sœurs, on parle beaucoup de persécution. On lit beaucoup. On ne la vit pas, la persécution. C'est dans le feu de l'action qu'on réalise si le Seigneur est notre priorité ou pas. Ça ne veut pas dire que je la souhaite, la persécution. Mais nous devons être prêts. On ne peut pas suivre le Seigneur si nous n'avons pas cette disposition de cœur, cette repentance en nous. C'est-à-dire cette conscience qui nous interpelle et qui nous met face à nous-mêmes comme un miroir qui nous renvoie l'état de notre cœur. Si vous êtes satisfait de vous-même, mes frères et sœurs, je dis tant mieux, je ne le suis pas. Et tant que je suis dans ce corps, je reconnaîtrai ma faiblesse et ma vulnérabilité. Et cette nature humaine, elle sera toujours avec nous, elle nous fera toujours croire qu'il y a toujours du bon. Non, c'est un mensonge. Nous avons toujours besoin du Seigneur. Lui, en lui, il y a tout ce qui est bon. Nous découvrirons alors notre maladie intérieure qui s'appelle le péché. J'ai l'impression qu'on ne veut pas utiliser ce mot-là. Non, parlons pas de péché. Non, c'est le péché. Ben, c'est pour ça que le Seigneur est mort. Pourquoi il est allé sur la croix? Pourquoi le Seigneur est allé sur la croix et moi je continue dans ma vie de péché? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une insulte même à ce qu'il a accompli. Au moins que j'ai des remords. Au moins que je dise, oh là là, je suis en train de pécher, mais ce n'est pas bien, Seigneur, pardonne-moi. Mais si je n'ai pas ça, posons-nous des questions. Le Seigneur a donné sa vie. Une maladie qui nous maintient dans une mort spirituelle sans espérance. Le Seigneur voit cet état en Lévi. Il voit aussi la disposition du cœur de Lévi. Il lui a offert la bonne nouvelle. On dit toujours Dieu fait tout. Non, moi aussi. Parce que quand il a regardé l'état de Lévi, Lévi, il était dans la repentance, il était dans le conscient, il dit, Seigneur, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis publicain, je vais expliquer ce que c'est que les publicains, je suis en train de voler mes compatriotes, je ne pense qu'à l'argent, je veux m'enrichir, je suis au-dessus des autres. Mais si Lévi n'avait pas cette disposition du cœur, comment voulez-vous que le Seigneur l'appelle? Parce que le Seigneur dit, je suis venu appeler des malades pas des gens de bonne santé. Si nous nous sentons bien, on n'a pas besoin, tout va bien. On n'a pas besoin du Seigneur. L'appel du Seigneur est un aboutissement d'un cheminement qui se fait dans notre cœur et qui nous amène à l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur. Si nous avons reçu le Seigneur, eh bien nous avons ce qui est de mieux qui peut exister sur terre. Ça veut dire, je peux accepter tout. Si j'ai le Seigneur et je suis insatisfait, il y a quelque chose qui manque. Le Seigneur ne suffit pas. Lévi était un publicain. Un publicain. Et qu'est-ce qu'un publicain? Qui sont les publicains dans la Bible quand on parle des publicains? Les publicains, en fait, les publicains, je dois résumer, c'est ceux qui achètent en gros les impôts. Les Romains qui viennent, par exemple, ils viennent. Et au lieu que les Romains viennent demander des impôts, un publicain vient et dit, mais écoutez, voilà, il y a une communauté, combien il vous faut? Ah ben, il nous faut 150 000 euros. Alors, qu'est-ce qu'ils font le public? Elle dit, mais d'accord, j'achète en gros. Je vous dois 150 000 euros. Donnez-moi le droit d'aller les récupérer. Qu'est-ce qu'il fait le public, hein? Il va chercher plus. Vous comprenez? Non seulement il a un pourcentage sur les 150 000 euros pour le payer parce qu'il a récolté l'impôt, mais il va demander plus et ce plus, il le garde pour lui. C'est ça, le public. Hein? Oui, j'essaie de vous l'expliquer assez simplement. C'est cela, le public. C'est pour ça qu'ils étaient haïs parmi le peuple. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Jean-Baptiste... Il leur a rappelé, regardez, Jean-Baptiste écrit dans Luc chapitre 3, verset 12 et 13, il s'adresse au publicain. Jean-Baptiste n'était pas contre le fait de payer les impôts. Sous-traiter, enfin, on va parler de la sous-traitance. Les Romains sous-traitaient la collecte des impôts auprès des publicains. Voilà, j'essaie de l'expliquer simplement. Donc, Jean-Baptiste et le Seigneur n'étaient pas contre ça. Mais seulement, il dit, mais écoutez, ne demandez pas plus que ce qu'il faut, quoi. Votre accord, votre contrat, respectez-le. Mais il y en a qui ne faisaient pas ça. Qui aille au-delà. Alors Jean-Baptiste s'adressait à eux. Dans Luc, chapitre 3, verset 12 et 13, voilà ce que dit. Je lis, « Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, écoutez bien, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Vous avez compris maintenant pourquoi les publicains étaient complètement détestés par son peuple? En fait, c'est qu'ils demandaient plus et ils mettaient de l'argent dans leur poche. Jean-Baptiste a enseigné qu'il n'y avait rien de mauvais dans le rachat des impôts. Le Seigneur lui-même l'a dit, on dit à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Mais ce qu'il dénonçait, c'est la fraude, l'extorsion que les publicains faisaient souvent. Ça a changé depuis. Ça n'a rien changé. La sous-traitance a toujours... Oui, on parle de sous-traitance. On demande plus. Oui. Ça n'a pas changé. Le cœur de l'homme est toujours le même. À cause de tout cela, pour les Juifs, les publicains étaient des traîtres qui s'étaient unis à l'envahisseur romain et des apostats qui avaient renoncé aux promesses que Dieu avait faites à leurs ancêtres. Par conséquent, les rabbins les avaient exclus de leur synagogue et de la vie religieuse d'Israël. Donc c'était des pécheurs pour les pharisiens, pour les rabbins, etc. Lévi était un publicain. Certainement depuis son poste, parce qu'il est dit qu'il était assis dans son poste, il avait récolté l'argent. Il avait certainement pu voir en de nombreuses occasions Jésus pendant qu'il prêchait, annonçait la bonne nouvelle, guérissait les malades. Dès lors, il voyait comment les multitudes anxieuses venaient avec des longues files de malades et d'infirmes, des gens misérables à qui Jésus accordait un soulagement, un soutien, des paroles de réconfort. Il leur donne beaucoup de paroles pleines de générosité. Il répondait à leurs besoins. Il se mettait à leur niveau. Dès que Jésus vit Lévi, il lui demanda de le suivre et Lévi a répondu immédiatement à l'invitation du Seigneur. Malgré tout l'argent qu'il aurait pu gagner, ce Lévi, il y avait un vide permanent dans son cœur dont il avait besoin de remplir. Quel est l'état dans notre cœur? C'est ça, moi je dis toujours, je reviens toujours à nous. Quel est l'état de mon cœur? Est-ce qu'il y a une certaine insatisfaction, argent ou autre? Si c'est le cas, il n'y a que le Seigneur qui peut remplir ce vide. Et c'est sûr qu'il était aussi captivé par Jésus. Les paroles du Seigneur, quand elles étaient adressées à Lévi, Lévi les a reçues. Lévi a pris conscience de la corruption de son cœur. Sa conscience le condamnait. L'appel du Seigneur est une bonne nouvelle pour lui. L'appel du Seigneur est une libération pour lui. Lévi est un pécheur qui s'est repenti. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'être un Lévi. J'ai envie d'être Lévi. Pécheur qui s'est repenti. Sa repentance a ouvert son cœur au Seigneur en répondant favorablement à son appel. L'appel du Seigneur, c'était tout pour lui, il a tout abandonné. Où nous en sommes? Oui, c'est ça la question que je me dis, où j'en suis? Le Christ, en tant que parole de Dieu, s'offre à nous quotidiennement pour nous nourrir spirituellement, pour répondre, pour remplir le vide qui est en nous, dont nous devons avoir conscience. Le disciple est celui qui répond favorablement à l'appel du Seigneur. Cette réponse ne peut pas venir de notre raisonnement intellectuel, mais d'une remise en question. Si nous pensons qu'on a beaucoup de bien, on est capable de servir le Seigneur, servir Dieu, allez-y. Tôt ou tard, on se rend compte qu'on en est incapable. Ce n'est pas possible. Dieu veut se servir de lui-même, par lui-même. Et c'est ça, notre nature humaine n'aime pas. Elle n'aime pas. Non, je suis là. Je suis presque les dieux. Pourquoi le Seigneur vient en moi pour se servir? Non, je suis quelqu'un, non? Et Dieu m'a créé pour ça, non? Mais justement, c'est là l'égoïsme humain qui a besoin d'un brisement. C'est ce qu'il a vécu, Lévi. Le Seigneur, Dieu veut se servir de lui-même à travers lui-même. C'est-à-dire, en fait, le Dieu ne voit rien d'autre que son fils Jésus. Et tout ce qui est en dehors de Jésus n'en veut pas. C'est-à-dire qu'il va voir à travers nous, à travers chacun de nous, son fils. C'est ça qui plaît au cœur de Dieu. Comme Simon et André, qu'on l'a lu au début du chapitre, quand on a lu Marc, vous vous rappelez, Simon et André ont accueilli le Seigneur dans leur maison. Eh bien, Lévi a fait de même. Quand le Seigneur l'a appelé, s'est présenté, il l'a accepté, il l'a suivi, il a dit, je rentre chez toi. C'est le cheminement normal. Lévi a accueilli le Seigneur chez lui. Sa maison, c'est non seulement Lévi l'a accueilli dans son cœur, dans son travail, dans sa marche, mais il l'a accueilli jusqu'à chez lui. Souvent on dit, mais je suis chrétien le dimanche. Allez, j'ajoute le mercredi. Non, on est chrétien dans son travail, dans la société, dans sa maison, quand je dors, 24 heures sur 24. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est ce qu'il est en train de faire Lévi, comme il a fait avec Simon et André. La maison de Lévi est devenue une église où le Seigneur peut résider, manger, enseigner, témoigner, guérir, tout dans la maison de Lévi, parce que ça a commencé déjà par la queue dans son cœur. Et avant tout ça, ça a commencé par la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de vie. Lévi devient un témoin vivant auprès de ceux qu'il côtoie habituellement. C'est comme ça que Lévi est devenu un témoignage pour ceux qui sont comme lui. Vous voyez le témoignage? Souvent on a envie de témoigner, allez je vais parler, non. Repentance. Accueillir le Seigneur dans notre cœur, on le suit, 24 heures avec le Seigneur, y compris dans mon foyer, et c'est le Seigneur qui vient avec moi, chez moi, et c'est lui qui témoigne à travers moi. Je suis rien. Lévi devient un témoignage vivant auprès de ceux qu'il côtoie habituellement, c'est-à-dire des pécheurs comme lui. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples. En suivant le Seigneur et en ouvrant la porte de sa maison, d'abord de son cœur, bien entendu, de sa maison, au Seigneur, la bonne nouvelle est devenue accessible à l'entourage de Lévi. Il est très important de rappeler et d'insister sur la symbolique de l'histoire. Lévi a témoigné. Et souvent, on est dans une société individualiste, rationnelle. Oui. Chacun d'abord. Il faut l'épanouissement des uns pour dire l'épanouissement de tout le monde. Ça, c'est la société occidentale. Mais on oublie que Lévi, en témoignant, qui était autour de la table? Il y avait certes Lévi, mais il y avait le Seigneur et les disciples, plus des pécheurs. C'est-à-dire, il y avait l'Église. Le témoignage n'a de sens qu'il aille sort de l'Église. Le témoignage ne peut pas, ceux qui disent, moi je vais partir en solitaire, témoigner, etc. Non, l'Église doit être le témoignage. Et qui dit l'Église? Le Christ, au centre. L'Église n'est rien d'autre que le Seigneur lui-même. Le témoignage ne porte de fruit que si nous sommes dans une communion verticale, mais aussi une communion horizontale. S'il n'y a pas de communion, il ne peut pas y avoir de fruit de la communion verticale. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, s'il y a une communion verticale, la conséquence est la communion horizontale. S'il n'y a pas d'amour dans l'Église, il faut se poser la question si on connaît l'amour de Dieu. Ça, je dirais, c'est le béaba, c'est quand un enfant qui rentre en, fait, en primaire, le premier mot qu'on lui apprend, c'est ça, le chrétien, c'est ça. S'il n'y a pas d'amour dans l'Église, le chrétien, je dis même le mot chrétien, est-ce qu'il faut le dire? Oui, je vais jusque-là. Si on découvre l'amour du Seigneur, on ne peut que s'aimer. Ce n'est pas possible autrement. Si on me dit dans l'Église, on se déteste, on ne s'aime pas, il y a un problème. Il faut le dénoncer et ça ne peut être qu'un mensonge. On ne peut pas aimer le Seigneur, découvrir son amour, si je ne peux pas l'expérimenter dans l'Église avec mes frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Lévi était assis en tant que récolteur, je dirais, des impôts. Il était assis pour son bien et voleur. Voilà encore, il est assis, cette fois-ci assis auprès du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé à un autre repos, celui près du Seigneur. Nous savons maintenant qu'à ce stade, dans l'évangile de Marc, deux églises sont déjà nées. L'église chez Simon André. Voilà maintenant une deuxième église dans la maison de Lévi. Devant la simplicité de la vie de cette église de maison chez Lévi, le salut est entré. Le Seigneur est accueilli, il peut se reposer. Il peut guérir, il peut parler de la bonne nouvelle. Mais il y a toujours un obstacle, c'est celui des religieux, des pharisiens qui condamnaient tout cela. Les gens de la loi. Ces religieux qui rejettent la grâce. Mais quand on parle des pharisiens, moi ce qui m'intéresse, c'est que dans l'église, il peut y avoir des pharisiens. On est bien de critiquer, de dire, oh, regardez ces pharisiens. Mais dans le tissu chrétien, dans le monde chrétien, il peut y avoir des gens de la loi, des pharisiens, ce que j'appelle les théologiens sans la grâce. On est là pour sortir la loi, non. Mais on oublie la grâce. On peut être des pharisiens tout en étant des chrétiens. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Les pharisiens, il faut savoir, mes frères et sœurs, ils constituaient une secte importante du judaïsme à l'époque de Jésus. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui restent maintenant aujourd'hui, ce sont des pharisiens. En Israël, par exemple, les religieux les plus, c'est pharisiens, surtout pharisiens. Le mot phariséo signifie séparer. Et en principe, l'idée de ces personnes était celle de se séparer de tout péché et de toutes les choses qui contaminaient l'homme et le faisaient impur aux yeux de Dieu. C'est ça la définition de pharisien normalement. Cependant, au fil du temps, ils sont devenus terriblement légalistes. Ils avaient inventé une série de traditions qu'ils appelaient la loi orale. Aujourd'hui, on utilise le midrash, voyez, même aujourd'hui. La loi orale, l'objectif de cette soi-disant loi orale était d'expliquer comment garder la loi écrite donnée à Moïse. Mais au fil du temps, jusqu'à nos jours d'ailleurs, ils ont fini par élever leur tradition au même niveau que la loi de Moïse. Ils ont ajouté loi sur loi. À l'époque de Jésus, les pharisiens exerçaient une grande influence sur les gens et ils étaient considérés comme les véritables leaders spirituels. Les pharisiens évitaient tout contact avec les publicains, pour les raisons que je vous ai expliquées, et ils critiquaient Jésus parce qu'il les fréquentait souvent et parlait avec eux. Selon l'opinion des pharisiens, prêcher ou enseigner les publicains était chose inutile et manger avec eux était le comble d'une conduite répréhensible. Ce n'est pas possible. On ne se mélange pas. Ne pouvant donc imaginer ce qu'ils pensaient quand Jésus avait choisi un publicain du nom de Lévi, Matthieu, comme disciple. Il allait même manger chez lui et avec d'autres. Il se considérait très supérieur au publicain qu'il regardait avec mépris et dédain. De ce fait, ils pensaient qu'il n'y avait pas de salut pour des pécheurs comme les publicains. Encore moins pour les non-juifs. Mais le Seigneur Jésus mit en évidence que les disciplines religieuses des pharisiens dissimulaient le fait qu'ils étaient eux-mêmes aveuglés. Je vous invite à lire chez vous le chapitre 23 de Matthieu. Vous allez voir le réquisitoire du Seigneur envers les pharisiens, même aujourd'hui. Israël, les Juifs, rendaient responsable l'Église pour dire en fait c'est antisémite. Alors que le Seigneur s'adresse juste aux gens de la loi pour leur dire en fait vous êtes en train de lier votre propre peuple. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous mettez encore sur le dos. Malheur à vous, pharisiens. C'est comme ça qu'il parlait des pharisiens. Les pharisiens ont essayé de détruire la réputation du Seigneur Jésus en l'appelant ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Matthieu, chapitre 11, verset 19. Cependant, cette accusation qui semblait désigner une injure des pharisiens envers Jésus est devenue l'une des raisons pour lesquelles nous adorons le Seigneur. Eh bien, cette insulte, pour nous, ça fait de nous des chrétiens. Gardons-nous de ne pas devenir comme ces pharisiens légalistes et accusateurs. Gardons-nous à ne pas accuser son frère et sa sœur, c'est tellement facile. En accusant, on porte un jugement sur soi. Nous sommes des pécheurs graciés, mais veillons à ne pas faire de cette grâce une occasion de justifier notre vie dans le péché. Ça aussi. Nous n'avons pas à juger de ceux qui vont monter au ciel ou descendre. Ça, c'est le problème de Dieu lui-même. Je ne suis pas Dieu. Veillons à maintenir cette grâce dans notre Église, dans notre communauté, dans, chez les chrétiens d'une manière générale. Une grâce opérante en nous, en laissant Christ nous remplir de son amour, de sa paix, de sa bonté et de sa grâce. Sans ces vertus-là, nous ne pourrons pas vivre la vie chrétienne. Nous vivrons dans le jugement. Je n'ai pas à juger mon frère ou ma sœur. Par contre, nous en sommes tous bénéficiaires de la grâce. Cette grâce qui nous est accordée dénonce la vie de péché. C'est pourquoi tout chrétien qui reçoit et réalise la grâce divine rejette le péché et tend vers une vie de piété. On ne peut pas être chrétien et ne pas chercher la piété. Je ne peux pas être chrétien et vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est incohérent. Une vie sanctifiée qui se nourrit de notre obéissance au Seigneur. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le chrétien ne doit pas être un pharisien religieux d'apparence, mais il doit être un publicain repenti qui suit le Seigneur, c'est-à-dire un malade qui a conscience de sa maladie et qui cherche de tout son cœur le Christ comme son médecin. Sommes-nous conscients de notre maladie qu'on appelle le péché ? Tous les soirs, on s'adresse à Dieu, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait de la journée. Ou je dis, Seigneur, tout va bien. Ah, tout va bien chez moi. Je me suis examiné, tout va bien. Comme nous l'avons dit avant, les pharisiens se scandalisaient de voir Jésus s'approcher des publicains et des gens de mauvaise vie. Le problème, c'est qu'ils étaient tellement légalistes qu'ils ne pouvaient pas voir la grâce de Dieu en faveur des hommes perdus qui ne le méritaient pas. Quand je vois ma propre expérience dans la famille, ma propre père a besoin de cette grâce. Le cœur peut être aussi dur, rejetant ses enfants, tout ce que vous voulez, même au point de nous a déshérités. Mais je sais, en faisant cela, c'est qu'il a besoin de grâce. Et si je ne prie pas pour lui, pour qu'il ait la grâce, qu'est-ce qu'il faut? Il est condamné alors. J'essaye de le condamner. Non. Jusqu'au dernier souffle de sa vie, je continue à prier pour lui, pour qu'il reçoive la grâce. Et là, je le verrai devant le Seigneur quand je serai là-bas en haut. Et j'espère qu'on se serrera dans les bras. Mais pour expliquer sa relation avec les publicains et les gens de mauvaise vie, le Seigneur Jésus a utilisé une illustration. La relation entre un médecin et ses patients. Jésus a comparé un pécheur à un malade. Et il a compris que tous ceux qui étaient assis à table étaient tous malades. Lui, il était le médecin. De quel genre de médecin serait celui qui refuse de s'approcher de malades? On peut l'appeler médecin. Qui dit « je ne veux pas m'approcher des malades ». De la même manière, ce serait absurde que le sauveur du monde ne s'approche pas des pécheurs pour être en contact avec eux. Ce n'était pas le problème des pharisiens. Les pécheurs condamnés, ils vivaient entre eux. Ils avaient défini un cahier des charges pour dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Un cahier des charges qui définit ceux qui sont sauvés, ceux qui ne le sont pas. Tant qu'on ne prend pas conscience de notre maladie, de notre aliénation, on ne peut pas chercher notre médecin. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler à la repentance. Oui, toujours la repentance. Non les justes, mais les pécheurs. Une autre traduction nous dit, ce ne sont pas ceux qui pensent être en bonne santé, qui pensent être, qui ont besoin du Seigneur. C'est-à-dire, ayant un cœur repentant, besoin du Seigneur, et là le Seigneur intervient. Le début du traitement spirituel pour le pécheur est la repentance. La repentance dispose le cœur du pécheur à recevoir le pardon guérisseur et par la même occasion, la vie éternelle. Le Seigneur veut qu'on soit chacun à Lévi. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il le fait 24 heures sur 24. Qu'on soit en recherche ou qu'on soit chrétien n'ayant pas réalisé la grâce divine, qu'on soit chrétien affermé aussi. Il attend qu'on le reçoive dans son cœur comme Lévi, qu'on se lève comme Lévi, qu'on le suive comme Lévi, qu'on dise oui comme Lévi, qu'on fasse de lui notre compagnon de tous les jours, y compris dans notre foyer, comme Lévi, et qu'on le serve par la suite comme Lévi. S'il y a un message à donner ce matin, c'est celui-là. Je termine par un passage dans l'Apocalypse, livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et je le prends pour moi-même, moi le premier. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, il est avec moi. Il a commencé à le faire chez Lévi. Il veut le faire chez chacun de nous. Que le Seigneur nous aide, et moi le premier, à titre individuel, dans mon foyer, dans mon travail. Et qu'il nous aide en tant qu'Église pour qu'un jour, on sera au-dessus, on se rappellera de ce moment-là. Le Seigneur nous aide. Amen.